bien, nous continuons notre exploration de la protection de sa route physique avec Azure Site Recovery. Et donc, on est dans le module 3. Et Arnaud, tu vas nous montrer comment mettre en œuvre les différents prérequis nécessaires pour mettre en place la solution avec Azure.
Alors, qu'est-ce qu'on va chercher à protéger? J'ai mon infrastructure sur site qui est ici. Alors, c'est l'infrastructure que tu connais bien, c'est qu'on utilise pour toutes nos démonstrations lors des Tech Days et autres. Donc, on a des vieux serveurs physiques qu'on a un petit peu recyclés pour quelques opérations. Il y en a un qui fait contrôleur de domaine, qui s'appelle Hyperlan 1. Il y en a un autre qui fait SharePoint, c'est Hyperlan 4. Et un autre qui fait SQL Server 2012, c'est Hyperlan 5. C'est ce qu'on appelle dans le jargon des serveurs un petit peu datés, hein, on appelle des vieilles babasses, hein, mais qui servent encore pas mal et on veut les inclure dans notre entreprise d'activité. Là, en l'occurrence, tu vois, c'est mon contrôleur domaine, il y a les opérations de PDC émulateur, il y a tous les rôles FSMO, donc je prends celui-là pour faire mon plan d'entreprise d'activité.
Bien sûr.
Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre Azure et je vais créer ces machines virtuelles à l'intérieur de réseaux virtuels basés sur leur configuration physique dans mon data center. Donc, première chose à faire, c'est qu'on va créer un réseau virtuel, ben, simplement pour faire un petit nidouiller à ces serveurs pour qu'ils puissent s'instancier sur Azure.
Donc, en gros, tu vas binder, tu vas créer l'équivalent du réseau physique où sont connectés physiquement ces serveurs, les serveurs physiques, dans ton data center, et tu vas créer l'équivalent dans Azure avec le même plan d'adressage. Mais sauf que là, comme c'est dans Azure, c'est du virtuel, et donc ce sera un virtual network, un VNet.
Yes. Donc, je vais dans la configuration. Alors, vous allez voir que j'ai préparé pour cette démonstration des slides, puisqu'en fait, il y a beaucoup d'opérations qui prennent pas mal de temps. Donc, pour faire un petit peu l'économie d'attendre à chaque fois les assistants qui se complètent, eh bien, j'ai fait tout ça en mode slide. Donc là, on voit qu'il nous demande une configuration pour les détails de ce réseau. Je prends comme nom VNet, PRA, HS, comme Hyperspeed physique. Donc, c'est la reprise de la machine de la plateforme Hyperspeed en mode physique. Et j'ai pris ça sur West Europe.
Donc, c'est important, c'est que là où on crée le Vault, c'est-à-dire le coffre-fort, le coffre-fort Azure pour l'Azure Site Recovery, eh bien, on va devoir créer, bien entendu, le VNet dans la même région que le Vault. Mm-hmm. Et la même région également que le compte de stockage.
Absolument. Là, on voit dans cette configuration, je n'ai pas défini de connexion site à site, ni de point à site. Qu'en fait, la seule chose que je vais faire, c'est que je vais pas interconnecter mes data centers, je vais juste répliquer mes VM par les mécanismes natifs à travers l'Internet. J'ai pas spécifié de serveur DNS, mais je viendrai modifier ça sans doute un petit peu plus tard dans la démonstration pour spécifier comme adresse IP de DNS le serveur de Hyperlan 1,
le contrôleur de domaine.
J'aurais mis de mon contrôleur de domaine effectivement à l'intérieur d'Azure. Je crée donc un premier subnet recovery VNet 1, je prends 192.168.0.0/24, classique, pas de doute ici à avoir.
Au niveau des VNet, tu as recréé le plan d'adressage que tu avais ou que tu as avec tes serveurs physiques, c'est bien ça?
Alors, je n'ai pas forcément fait ça en fait, hein, dans mon environnement. J'avais 192.168.42.0/24 dans mon data center. Ici, j'en ai pris un autre, mais la configuration va être changée à la volée, donc il n'y a pas de prérequis.
C'est donc, pas effectivement, tu nous montreras après par machine comment associer ou conserver les adresses IP ou les binder pour les vers d'autres adresses IP.
Absolument, mais ce n'est pas obligatoire qu'il y ait ce mapping one-one.
D'accord, hein. Donc c'est bon à savoir ça.
Ouais. Donc, je crée un Site Recovery Vault, un coffre-fort de protection des machines virtuelles en bon François. Ou il y aurait d'autres traductions peut-être?
En espagnol peut-être?
Ouais, mais en français c'est bien. Alors, le Site Recovery Vault, on a simplement l'option Quick Create. Dans l'option Quick Create, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous demander donne-moi un nom et donne-moi une région pour aller spécifier cet environnement. Il est recommandé effectivement d'avoir dans la même région que les réseaux virtuels et que les machines virtuelles. Une fois qu'on a fait ça, il va nous demander effectivement qu'est-ce qu'on veut protéger comme environnement. Et selon ce qu'on spécifie ici, dans ce Setup Recovery, il va nous donner les étapes qui sont nécessaires à la configuration de l'environnement. Vous l'avez vu dans d'autres cours, on peut protéger des machines virtuelles Hyper-V et les envoyer dans Azure. On peut protéger des machines virtuelles VMware et les envoyer dans Azure. Et bien, ce sont différents scénarios qui sont proposés ici. Ici, je veux faire simplement protection de machines VMware ou de serveurs physiques dans Azure.
Ce qui est assez intéressant ici, c'est qu'on voit qu'on a protégé des machines sur site VMware ou physique dans Azure. C'est-à-dire qu'en fait, l'outil qui va être utilisé, et là dont tu nous montres en fait l'ensemble de l'installation du paramétrage, c'est-à-dire les différents serveurs, le process server, le target server, le configuration server, en fait, ce sont les mêmes outils qui sont également utilisés pour protéger les environnements VMware.
Absolument.
Donc ça, c'est intéressant parce que du coup, en termes d'expérience, on a quand même des choses qui sont assez similaires. Et du coup, ça évite comme ça, on sauvegarde l'ensemble de ces environnements virtuels et physiques avec les mêmes types d'outils et les mêmes mécaniques. Ce qui est plutôt intéressant, quand on fait un PRA après, on réutilise en fait finalement les mêmes, des procédures assez similaires. Je ne vais pas dire les mêmes, mais assez similaires.
Exactement. Donc, eh ben, j'ai envie de dire, on est pas mal là. On a une infrastructure sur site, on a des réseaux virtuels dans Azure qui nous permettent de récupérer nos machines virtuelles et puis on a un site de protection, un Recovery Vault. Étape suivante, on a tout un ensemble de serveurs à promouvoir. Pour être plus précis, on en a deux à promouvoir dans Azure. Le premier, c'est le Configuration Server. Alors, à quoi ça ressemble? Quand je retourne dans mon assistant, dans mon écran principal, il me dit voilà, crée un Configuration Server. Je crée sur Configuration Server. Qu'est-ce que j'ai? Il me propose là effectivement de dire un nom pour cette machine. Donc là, j'ai pris PRA, HS, physique, Configuration Server 1, classique. Un nom d'utilisateur, le nom de mon réseau virtuel dans Azure que je veux utiliser et l'adresse IP que je veux dédié pour ce serveur. Donc là, il me propose automatiquement de réserver une adresse IP statique à l'intérieur du réseau virtuel Azure pour ce serveur. Je lui spécifie l'adresse ici. Pas de souci, je valide. Je valide si je vais dans la partie job de Azure Site Recovery ici. Je vais voir qu'effectivement, il a commencé l'opération de déploiement du configuration server. Ça prend un petit peu de temps, le temps que ça prend de déployer une machine virtuelle. Et là, on voit les opérations qui s'enchaînent. Donc, pre-flight check, donc il vérifie la configuration. Il crée un compte de stockage dédié à ce configuration server. Il lui crée un cloud service automatiquement. Il crée une réserve d'IP, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et puis, il crée le configuration server deployment avec le boot de la machine virtuelle qui est en train de s'effectuer.
Ce qui est intéressant à noter, c'est que dans Azure Site Recovery, quand on fait des opérations, quand on lance des différentes opérations, en fait, on a toujours associé à ces opérations en fait, un job qui est créé, qui est accessible par l'onglet job, et que job qu'on peut ouvrir pour en voir le détail, et à l'intérieur, on va voir les différentes étapes, ce qui permet notamment déjà d'être sûr que c'est en train de bien se passer, et le cas échéant de savoir à quelle étape en fait, on a un problème. Mm-hmm. Du coup, ça oriente fortement le dépannage et la recherche des causes liées en fait, à un déploiement ou une protection qui se fait mal.
Oui, avec des logs qui sont assez explicites et intéressants. Une fois que j'ai vu que la machine virtuelle avait booté, bah, je vais dans ma console en fait classique. Hein. C'est la console où je retrouve mes machines virtuelles Azure, donc d'autres machines qui peuvent exister au préalable. Et puis là, je vois la machine que je viens de créer via l'assistant ASR. La machine a booté, je vais donc pouvoir m'y connecter. Là, on voit, si on regarde un petit peu d'un œil averti, en fait, on a les opérations classiques de PowerShell et de Remote Desktop, pardon. Sur des redirections de port élevés, c'est à peu près ce à quoi on s'attend. Et puis si on regarde un petit peu plus près, ici, il nous a créé des endpoints également à disposition pour la règle custom, qui est le port classique de communication de Azure Site Recovery, et puis le HTTPS ici qui est dispo. Donc il m'a redirigé le port 443 vers un port élevé dans l'espace de dressage public.
En gros, c'est flèche.
Absolument. Donc une fois que j'ai vérifié ces opérations-là, je vérifie connexion, securing remote desktop. Et là, ce qui m'attend quand je me logue sur le serveur, c'est effectivement bienvenue à Azure Site Recovery Configuration, serveur ou process server setup wizard. Ici, c'est automatiquement en mode configuration server.
Donc là, c'était fait de manière automatique pour toi. L'assistant est déjà prévu à lancer dès que tu te logues.
Voilà, c'est un petit autorun qui fait que dès que je récupère ce wizard dès que je me logue sur le serveur. Donc là, il me dit, tiens, en fait, pour faire ma configuration, je vais me baser sur MySQL. Est-ce que tu es d'accord avec la licence de MySQL?
Ce qui est assez, du coup, un petit peu, on pourrait penser déroutant, hein, MySQL dans un produit Microsoft. Peut-être raconter que le produit, ce qui nous permet de faire ça, c'est ici également le rachat d'une technologie, d'une entreprise qui s'appelait...
Alors en fait, ça s'appelait Image, et le produit, c'est Scout, qui fait cette opération. Donc effectivement, quand ils ont fait l'ingénierie du produit, c'était basé sur MySQL, et puis cet héritage est présent là, pas de raison que ça change. Hein,
le produit marche bien, du coup, on l'a gardé tel quel.
Exactement. Là, il nous demande un mot de passe pour le compte root de MySQL. Donc, on le prend, on le note dans un coin. On essaye de le mettre un petit peu
complexe,
un petit peu sécurisé, un petit peu complexe. Là, l'étape d'après, c'est qu'il me demande quelle configuration je vais avoir pour mon réseau, c'est-à-dire quelle manière le data center va venir communiquer avec moi. Soit je suis en mode VPN. Donc là, on sait qu'on n'aura pas de problématique de NAT traverso, là, se préoccuper de détection des ports, etc. Puisque on aura une connexion directe, hein, si une connexion site à site ou express route avec Azure, ou on peut le mettre en mode non VPN, et dans ce cas-là, effectivement, il va se connecter à travers potentiellement des NAT et autres types de connexions sécurisées à travers mon environnement. Donc là, ça veut dire qu'il va transporter les données en mode chiffré, contrairement à l'autre mode où il ne le faisait pas forcément. Donc là, j'ai pris le mode non-VPN pour cet environnement de restauration. Là, il me dit, attention, si tu fais ce choix maintenant, tu ne pourras pas changer après. Donc, c'est assez structurant.
Tu ne peux pas change.
Voilà. Est-ce que tu es sûr? Oui, je suis sûr, je valide. Et là, il me dit, tiens, en fait, tant qu'on est là, comment est-ce qu'on va se connecter à Internet pour aller discuter avec le réseau extérieur? Là, ici, connecting with existing proxy, directly without a proxy, ou using custom proxy setting, on prendra ce qui est le plus approprié selon ma configuration. Donc ici, je n'ai pas pris de proxy. Là, il me dit, au fait, qu'est-ce que tu veux comme langage dans la suite de la promotion, dans les outils de configuration, par exemple des comptes et de post-promotion. C'est intéressant de noter, avant, on n'avait que de l'anglais, maintenant, on a le choix dans plusieurs langages.
Est-ce qu'on peut recommander plutôt un langage de dire l'anglais quand même était plus testé?
On peut. Une fois que je valide ça, il fait OK, pas de problème, je vais aller télécharger MySQL et puis je te ferai la promotion de ton environnement.
Donc l'assistant va par défaut chercher la dernière release
de MySQL sur Internet.
D'accord, il n'y a pas le traité soi-même.
C'est aussi pour ça qu'il va demander les caractéristiques du proxy en fait.
Intéressant.
Pour aller récupérer MySQL. Alors là, le setup continue tranquillement et puis. Point important, il va nous donner une passe-phrase à un moment.
Passe-phrase étant une phrase assez longue qui sert de secret dans pas mal de technologies.
Ouais, alors cette passe-phrase, en fait, à savoir, on va l'utiliser juste une fois pour établir un trust primaire entre le configuration server, le master target et le process server. Mais en fait, on ne va pas l'utiliser pour chiffrer nos secrets. En fait, cette passe-phrase, elle va être utilisée pour faire un premier échange. Et ensuite, on va générer des certificats pour proprement, à partir de ce premier secret, pour dédier qu'on ait bien discuté avec les bonnes machines. Donc, c'est juste important de le noter. Si vous le perdez, c'est un petit peu embarrassant. Mais à noter que ça se retrouve dans les fichiers de log, en fait. Vous allez dans C, Program File, Azure Site Recovery, et il y a un fichier de log qui reprend la passe-phrase. Parce que vous notez bien que sinon, c'est un petit peu embêtant si on la perd définitivement.
Un petit fichier de log pas chiffré, quoi.
Pardon ?
Un fichier de log en clair.
C'est un fichier de log qui est pas chiffré. Notez, c'est juste la passe-phrase. Hein. Voilà, si vous êtes arrivé déjà sur le serveur dans ces programmes, voilà, c'est
effectivement, le problème est réglé.
Vous avez déjà les droits d'admin, hein, de toute façon, sur le serveur. Donc, il faut l'avoir en tête. On la spécifiera dans quelques instants sur le master target. Donc, une fois qu'on a ça, première étape à faire, c'est d'envoyer la registration key pour enregistrer le serveur avec Azure.
La registration key, c'est une clé en fait des crédentiels qui permettent effectivement de s'authentifier vis-à-vis d'un Vault. C'est bien ça?
De la même manière, exactement. On va enregistrer maintenant la machine virtuelle vis-à-vis du Vault Azure Site Recovery. Donc, on fait download registration key et puis l'étape après dans l'assistant, c'est qu'il va nous la demander cette registration key. Donc, à ce moment-là,
il va demander le fichier en fait associé, qui est un fichier .credentialvault, si je ne dis pas de bêtises.
Exactement, qui va être valable de mémoire 3 jours.
Ouais, c'est pas plus en tout cas.
Ouais. Et puis, en gros, qui va être valable une fois aussi. Une fois qu'il a fini et qu'il a bien associé le configuration server avec le Vault, il va dire, OK, c'est bon, on n'est pas trop mal. Est-ce que ça t'intéresse que je te crée une icône pour le CSPS Config Tool? Ouais, ça me paraît pas mal parce qu'en fait, c'est cet outil qui va te permettre de créer les comptes qui vont être utilisés sur ton data center pour pouvoir te connecter à tes machines physiques et y installer les mobility services.
Ok, donc c'est là où tu vas donner un crédentiel dans le domaine qui permettra en fait au process server de se connecter aux différentes machines physiques pour pouvoir en fait simplement les aspirer.
C'est bien ça. Si on regarde à quoi ça ressemble, en fait là j'ai fait créer un raccourci et en même temps à la fin il te le lance automatiquement. Donc là on voit cette notion de add account. Ce compte-là, il va avoir besoin de droits qui vont permettre d'aller installer des services, les Mobility Services, que tu appelles l'aspirateur pour la machine, pour le serveur physique. Et donc, on a besoin de créer des choses qui ont les droits d'admin sur ces serveurs physiques.
On parle ici d'admin local, bien entendu, pas forcément d'admin du domaine.
En fait, c'est ça, c'est que si tu es en train de répliquer, comme je suis en train de le faire, un contrôleur domaine, tu as besoin d'un compte qui soit administrateur du domaine.
D'accord. Si on n'est pas dans le cas d'un contrôleur de domaine ou d'un serveur, juste un serveur membre, on peut se permettre d'utiliser un compte local de machine dédié à ça.
Absolument.
D'accord.
L'utilisation d'un compte de domaine n'est
valable que pour la partie contrôle de domaine.
Contrôle de domaine, voilà. C'est qu'une excuse valable dans ce cas-là. Pour le reste, c'est juste une excuse de fainéantise.
D'accord.
Donc là, je fais Add Account. Alors, je ne vous montre pas, mais j'ai créé ici au préalable sur mon environnement de test un compte qui s'appelle PRA6Account avec un mot de passe pas très complexe. On prendra sans doute un petit peu plus complexe dans un environnement de production.
Est-ce que l'assistant vérifie la complexité ou pas?
Il s'en fout.
D'accord.
Il ne peut pas tout résoudre, tous les problèmes hein, pour vous hein, non plus. Une fois qu'on a ça, on a effectivement spécifié ici plusieurs comptes. Alors, à noter, bonne pratique, hein, si vous avez effectivement des contrôleurs de domaine et puis des serveurs qui sont membres du domaine, on va créer plusieurs comptes. Et puis, quand on configurera la réplication des machines virtuelles ensuite, enfin des serveurs physiques pour en créer des machines virtuelles, on spécifiera différents comptes pour différentes tâches.
D'accord. Je suppose que vu qu'on a un compte ici qui est utilisé, est-ce qu'il est utilisé initialement pour configurer les agents, etc. ou est-ce qu'il est régulièrement utilisé?
Il est configuré initialement pour aller pousser les mobility services. Après, il n'est pas très extensivement réutilisé dans le cas des serveurs physiques.
D'accord, donc ça veut dire qu'on peut avoir un compte qui effectivement aura une durée limitée ou qu'on peut désactiver une fois qu'on a fait les opérations d'enregistrement.
C'est un petit peu délicat parce qu'après, enfin, c'est une bonne pratique, mais après, il faudra voir si tu as l'idée de venir rajouter un serveur a posteriori, tu auras un message d'erreur. Donc,
D'accord. Tu peux réactiver temporairement le compte quand tu fais cette opération, si c'est effectivement une procédure documentée.
Oui.
D'accord.
Donc voilà à quoi ça ressemble. On a fini donc la configuration du configuration server, justement. Si on va dans les propriétés du coup de ce configuration server dans Azure Site Recovery, dans la console, on a la possibilité d'aller voir qu'effectivement, j'ai un serveur. Ici, c'est l'adresse IP sur le VNet, c'est la version du serveur, Protected Agent et Agent qui sont installés. Pour l'instant, il n'y a rien. D'ailleurs, on voit qu'il n'y a pas de process server et pas de master target qui lui sont reliés. Création du master target, c'est l'étape d'après. De la même manière, on va dans la console Azure. Ici, on est toujours dans l'étape 1, Preparing Target Resource, et on est sur la deuxième ligne, ici, Deploy Master Target Server. Dans l'assistant, il va me demander, est-ce que tu veux faire est-ce que tu veux donner un nom, ensuite, quel sera l'operating system, et choisir à la taille de la VM qui sera créée. Un nom d'utilisateur. C'est ici qu'en fait, si on spécifie Linux comme master target, tu vas dire voilà, je vais te créer une VM CentOS 6.6, tu auras besoin d'aller charger tel composant sur le site web en plus.
Donc ça veut dire effectivement que si on a des serveurs et Windows et Linux physiques qu'on souhaite effectivement protéger avec Azure Site Recovery, on aura au moins deux master target, donc un pour Linux, un pour Windows. Par contre, on conserve qu'un seul config serveur et qu'un seul process serveur sur le site.
Absolument.
D'accord.
Absolument. Donc là, on choisit quel configuration server on veut relier à ce master target. Dans mon environnement, c'est simple, il y en a un seul. Et puis ensuite, sur quel réseau Azure je vais faire tourner cette machine virtuelle. Là, je lui ai mis 192.168.0.11. Il est juste à côté de mon configuration server. Du coup, il ne devrait pas avoir trop de problèmes pour communiquer entre eux. De la même manière, je vais aller voir dans ma console en fait le deploying master target. Je vois que les opérations sont en train de se faire. Une fois qu'il a booté la machine virtuelle, on voit qu'il va rajouter en fait les retention disks, c'est-à-dire les disques virtuels Azure pour la machine.
Donc c'est noter, les disques de données hors du disque système qui vont servir effectivement à stocker tous les logs et le contenu en gros de ce qui est aspiré depuis le physique.
Absolument. On voit que de la même manière, en fait, on a ici des custom endpoints qui ont été générés et qui vont permettre de communiquer avec l'extérieur en entrée depuis l'extérieur vers Azure. Donc pour qu'en fait, on ait la possibilité d'aller envoyer des informations depuis l'extérieur, depuis mon data center, vers ces VM qui sont dans Azure. Donc là, on a déploré.
Ces points-là seront importants parce que tu l'as dit tout à l'heure, tu ne t'es pas mis dans le cadre d'un déploiement en VPN ou Express Route. Donc ça veut dire effectivement que tu passes par Internet et du coup ben, sur les ports du pare-feu global d'Azure ou du load balancer, ça dépend comment on considère, il faut ouvrir ces points d'entrée pour que effectivement les clients qui sont le process server qui est situé dans ton data center puissent parler en fait à ces serveurs-là.
Alors là, ces endpoints sont créés automatiquement, hein. C'est pas à toi de les créer.
Oui, bien sûr.
Donc
oui,
c'est déjà fait. Hein.
Mais c'est juste l'explication, c'est parce qu'on n'est pas dans un cadre VPN ou Express Route qu'on est obligé de les ouvrir.
Absolument. Une fois qu'on se log sur, sur ce configuration server, ben on est bien accueilli par ça, en fait.
Je ne sais pas si le terme bien accueilli est bon, mais au moins, ça m'aide d'être clair. On retrouve l'adresse IP, ce fameux VM qui tourne dans Azure.
Alors là, il me dit, donne-moi l'adresse de mon CX, c'est-à-dire le configuration server, donc ce que j'ai fait au préalable, 192.168.0.10. Ici, comme mon master target il est juste à côté, 192.168.0.11, bah, je n'ai pas besoin de traverser la NAT, du coup, il discute directement sur du port 443, il n'y a pas de souci. Mm-hmm. Et puis là, passe-phrase, eh ben, rappelez-vous, c'est la passe-phrase que j'ai récupérée sur le config server. Et si je ne me rappelle plus, je vais le rechercher dans les fichiers doc, dans Program Files.
D'accord.
Une fois que j'ai ça, après quelques minutes, alors ça peut prendre jusqu'à 10 minutes, hein, le temps qu'ils se disent « Ouais, bonjour, ça va, comment tu t'appelles ?»« Ouais, je m'appelle le master target. »« Ah, toi, c'est comment, configuration de serveur ?»« Salut, ça va bien ?» Ils se font un petit handshake, ils se configurent entre eux, ils génèrent des petits certificats. « Ça va bien, tranquille ou pas ?» Et puis là, on a effectivement l'apparition du premier master target qui est ici, présent dans le serveur. Donc là, on voit qu'on a du heartbeat, que ça communique, qu'au niveau des disques de données, ça va pas mal. Et puis là, je vois des informations concernant les versions de l'operating system, enfin pardon, les versions des composants Image qui sont présents sur le serveur.
Effectivement, on est dans l'interface d'Azure où en fait on voit les détails du configuration server qui est le grand orchestrateur de tout ça. Mm-hmm. Effectivement, avec en dessous un tableau qui va se remplir, puis on mettra de master server en fonction de la volumétrie qu'on veut envoyer, en fonction du type de VM qu'on veut envoyer.
Alors ça m'amène à une petite note comme ça que je voulais vous donner au passage, c'est que on est passé assez récemment en mode de la preview vers la general availability. Donc ce qui se passe, c'est que pour passer dans cet environnement, soit vous avez plusieurs choix en fait, soit vous recréez un environnement de protection dans le nouvel environnement, ce qui fait que vous aurez tous les binaires qui seront à jour. Sinon, quand vous allez dans les détails des serveurs à l'intérieur d'un environnement Azure Site Recovery, en fait, vous avez une page qui vous permet de télécharger les derniers binaires. Donc, de passer de la 9.2, de la 8.2 pardon, qui est l'étape de preview, vers la 8.3, qui est l'étape de General Availability. Du coup, là, il y aura une petite phase de maintenance. Il faudra aller installer et mettre à jour automatiquement le process server, le configuration server et le master target.
D'accord. Je suppose que la processus de mise à jour ne nécessite pas de la désinstallation de l'existant, mais c'est simplement un MSI qu'on va lancer.
Il va le faire automatiquement pour vous. Voilà, ça commence par le configuration server, ensuite les autres serveurs. Enfin, une procédure qui détaille comment mettre ça en œuvre de toute façon. Petite note au passage. Donc du coup, on a notre plateforme de démonstration qui maintenant commence à prendre forme, puisqu'on a des VM dans Azure qui nous servent à récupérer les infos, le configuration server, le master target.
Donc si je me rappelle bien du schéma d'origine, il nous manque, je crois, le process server qu'on va installer soit sous la forme d'une machine virtuelle, soit sous la forme d'une machine physique. Une machine virtuelle qui peut tourner sur n'importe quel environnement de virtualisation, hein, Hyper-V, VMware ou Xen par exemple, ou KVM, et donc qui sera sur l'infrastructure sur site. Donc là, on a préparé tout ce qui est dans le cloud, dans Azure, la réception. Il nous reste à préparer les missions, entre guillemets, c'est-à-dire la configuration et la configuration du process server, c'est ça?
Et c'est tout l'objectif du module 4.